Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Béinda Boussouma. Voici le sommaire. La CENI annule les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Massimanimba au Kwilu et de Yakoma dans le Nord Ubangi. Elle annule également les suffrages obtenus par 82 candidats aux législatives nationales, provinciales et communales pour cause de violence et autres le jour du vote. Entre-temps, la Cour constitutionnelle compte statuer sur les requêtes de Théodore Ngoy et David Pala en contestation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier. Nord Kivu, il n'y a plus d'eau potable dans les sites des déplacés de Kanyaruchinya. Plus d'installations sanitaires appropriées non plus. Plusieurs ONG auraient arrêté leurs interventions sur place. Du coup, des milliers de déplacés vivent difficilement, alerte le président des déplacés de la zone. Et puis, l'invité de ce matin, Major Eric Dehey-Martin, le chef des opérations d'information de la force de la MONUSCO basée à Goma, nous parle des opérations menées par les troupes onusiennes ces deux dernières semaines, opérations cadrant avec la protection des civils dans l'Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante annule les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans le Nord Ubangi. Elle annule également la totalité des suffrages obtenus par 82 candidats aux élections législatives nationales, provinciales et communales. Décision rendue publique dans la soirée d'hier vendredi par Madame le rapporteur de la centrale électorale. La CENI justifie sa décision par la perturbation du déroulement des scrutins le 20 décembre, notamment par les actes de violence, de vandalisme et de sabotage perpétrés par certains candidats. Parmi ceux dont les suffrages sont annulés, figurent des personnalités politiques dont certains occupent des fonctions de responsabilité dans le pays, accusés entre autres de fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle va statuer le lundi 8 janvier sur les requêtes de Théodore Ngoy et David Pala en contestation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier. L'audience publique sur ce contentieux des résultats s'y tiendra exceptionnellement dans la salle d'audience Marcel Yaou à la Cour de cassation ici à Kinshasa. Par ailleurs, le procureur général près la Cour constitutionnelle demande à tous les contestataires des élections législatives nationales de le saisir avec preuve à l'appui sur la fraude présumée de ces législatives. Cette saisine ou toute dénonciation en rapport avec ces élections doit s'y faire pour les contestataires en déposant leur requête irrelative au greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai de 8 jours après la publication des résultats provisoires des législatives nationales par la CENI. Selon un communiqué du parquet général près cette Cour, le greffe ne peut recevoir aucun recours avant la publication des dits résultats. Pendant ce temps, en Ituri, la MONUSCO continue à appuyer les opérations électorales. Les hélicoptères de la mission onusienne ont ramené depuis jeudi à Bunia les plis de vote des antennes de la CENI à Aru, Mahagi, Fataki et Mongwalu. Ces données seront ensuite acheminées au bureau de la commission électorale et à la Cour constitutionnelle pour servir de preuve en cas de recours des candidats aux élections générales du 20 décembre dernier, a déclaré le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Jimmy Anga, remercier la MONUSCO pour son appui logistique pendant tout le processus électoral. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI en Ituri s'exprime au micro de Isaac Remoyope.
La MONUSCO a réellement appuyé pour accord que ramasser les plis à Magyaru et Mungwalu et Fataki. Donc dans ces endroits-là, ils ont appuyé, nous ont amené des plis. Donc les plis des résultats, c'est parce qu'on doit envoyer des exemplaires des plis à Kinshasa, à la Cour constitutionnelle pour certains scrutins. Pour d'autres, ça sera la Cour d'appel. Il y a des plis destinés à la CENI et au secrétaire exécutif provincial. Donc mais la MONUSCO nous a aidé réellement à reprendre ces plis. Et merci à elle encore. Le processus à notre niveau presque à la fin, presque achevé. Et maintenant, là, nous sommes en train de voir comment ces plis doivent être envoyés déjà dès aujourd'hui sur Kinshasa pour les plis qui doivent aller à Kinshasa.
Toujours au sujet des élections en RDC, la question du seuil de représentativité est diversement commentée au sein de l'opinion avant la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales par la commission électorale. Pour Gary Sakata, professeur de droit à l'université de Kinshasa et député national, les candidats ne doivent pas s'agiter en se basant sur leurs procès-verbaux pour se proclamer élus, car affirme-t-il, seuls les partis qui ont atteint le seuil auront les sièges. Gary Sakata explique au micro de Grâce Hamzati.
Le seuil a été fixé uniquement pour permettre à ce que les partis qui sont au pouvoir ou les regroupements qui sont au pouvoir soient les plus représentatifs possibles sur l'ensemble du territoire, en fait. Alors, le seuil de représentativité est de 1% pour la députation nationale, de 3% pour la députation provinciale et de 10% pour les municipales. Alors, cela se calcule sur base des suffrages effectivement exprimé, donc valablement exprimé. En d'autres termes, j'ai entendu le président de la CENI ces jours-là dire, lors de la proclamation du président de la République, dire qu'il y a eu plus ou moins 18 400 et quelques qui ont voté. Donc, en d'autres termes, on devrait donc comprendre que le seuil pour la députation nationale sera de plus ou moins 184 000 votants pour qu'un parti puisse avoir accès à un siège. Donc, le 3% pour la députation provinciale se calcule au prorata du nombre de votants effectifs dans la province et non pas au prorata du nombre sur l'ensemble du territoire. La même chose en ce qui concerne les municipales, ça compte pour la ville ou encore pour les territoires concernés. Si un parti politique n'a pas atteint le seuil, il n'a pas le droit d'espérer avoir un siège. La règle est posée. Donc, ne pourront avoir de siège à titre principal que les partis qui ont atteint le seuil.
Et puis, nous voulons que la paix règne sur toute l'étendue de la ville de Bandundu et de la province du Kwilu. Nous ne voulons pas avoir des casses ou des désordres inutiles dans la ville lors de la publication des résultats des élections législatives nationales et provinciales. Ce message de paix est de la société civile de Bandundu-Ville. Il a été lancé hier, quelques jours avant la publication des résultats des législatives par la CENI. Écoutez plutôt Martin Guizébou, secrétaire urbain de la société civile de Bandundu-Ville. Il est au micro de Irène Boma.
Bon, nous, en tant que société civile, nous disons que les élections, c'est un processus démocratique. Ce que nous demandons à tous les candidats, que ce soit les députés nationaux et provinciaux, même les conseillers urbains, lors de la publication des résultats, le fair play. Parce que dans chaque compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Nous ne voulons plus voir des gens émotionnés, des gens sous passion. Non, ce n'est pas la fin du monde. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça n'a pas marché, acceptez les résultats tels que publiés par la CENI. Le fair play, la vie ne va pas se limiter à cause de ces élections. Nous ne voulons plus attendre des casses au niveau de ville. Nous ne voulons plus attendre des bruits inutiles. Et la loi, soit la constitution, prévoit aussi les voies de recours. Si vous pensez que vous n'avez pas réussi par rapport à telle irrégularité, il y a une voie qui nous est proposée, c'est aller voir les juridictions compétentes. Mais nous demandons à tous les candidats d'être calmes. Nous ne voulons pas la vie des casses et des ordres. Non, nous voulons que la paix règne sur toute la ville de Bandundu et dans la province du Kwilu lors de la proclamation des résultats des députés.
Direction le Grand Katanga. Nous apprenons que le calme est revenu depuis hier soir dans le groupement de Kachobwe, territoire de Kasenga. C'est après une vive tension qui y a prévalu la veille, c'est-à-dire le jeudi. Plusieurs personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre les résultats provisoires proclamés par la CENI le 31 décembre dernier. Le bilan fait état d'une personne tuée par balle, des permanences de l'UDPS Tshisekedi et de l'UDPS Kibasa détruites, plusieurs maisons des particuliers saccagées et des biens emportés. Les policiers et les militaires ont été dépêchés sur place pour établir l'ordre. Écoutez le témoignage de cet habitant qui a requis l'anonymat. Il est joint par Jean Gandou.
C'était une marche pacifique et par après ils ont débordé pour aller démolir les étalages du marché, voire même les kiosques ciblés des Kasaïens. Ils ont continué pour aller démolir les bureaux de l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS Kibasa. Ils sont arrivés maintenant à cibler surtout les gens de l'Union Sacrée et en prenant tout le bien. Ils avaient décidé d'aller attaquer la police pour libérer les prisonniers. C'est là où la police a tiré dans un monsieur répondant au nom de Chomba. Il était mort sur place et son enterrement a eu lieu au sein. toute la nuit, il chantait malgré que Moïse Katumbi avait lancé le message d'apaisement, perdisant cette marche. La population ne voulait pas comprendre et même à présent, il y a toujours le message d'apaisement qui passe à la radio. Il n'y a pas de trouble depuis l'arrivée du renfort en provenance de Lubumbashi, une équipe mixte de la police ainsi que les militaires qui font l'ordre à Kashobo.
L'administrateur du territoire de Kasenga qui est arrivé sur place hier aux petites heures du matin confirme l'information et déplore tous les actes de vandalisme perpétrés par les manifestants. Et pour mettre fin aux attaques ethniques dans l'espace Grand Katanga, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, sollicite l'implication personnelle du chef de l'État. Ces troubles ethniques ont éclaté au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle 2023. Le président de l'ANVC, Miran Mulumba, a lancé cette invitation hier dans un entretien à Radio Kapi. Il redoute que ces violations des droits de l'homme entravent le climat de paix et le développement dans ce coin du pays. Miran Mulumba et Jean par Blaise Ndongala Mayanda.
À ce jour, il s'observe des attaques systématiques où nous enregistrons pratiquement plusieurs violations systématiques des droits de l'homme, mais pourquoi pas aussi du droit international humanitaire. Voilà pourquoi nous voudrions à ce jour implorer la volonté personnelle du magistrat suprême comme étant le protecteur, le garant de la cohésion et de la paix sociale. Nous trouvons que l'intégrité et la cohésion dans le Grand Katanga est sous menace. Voilà pourquoi nous voudrions, suite à l'urgence et la nécessité, nous trouvons qu'il est impérieux que les deux chambres se réunissent en congrès pour devoir décréter un état d'urgence. Je crois que c'est de cette manière que nous allons devoir assurer la protection et l'intégrité de cette partie de la République. Parce qu'avoir à ce jour les différents cas de violations systématiques des droits de l'homme qui sont enregistrés depuis l'annonce de résultats, gérer, c'est prévoir. Voilà pourquoi nous voudrions demander au président de la République, le magistrat suprême, à jouer à la prévoyance pour éviter qu'il y ait la résurgence.
Rendons-nous au Nord Kivu. Au moins 4 villages du groupement Mufunishanga s'est vide de leurs habitants depuis jeudi. C'est dans la chefferie des Baoundé, territoire de Masisi. Selon plusieurs sources sur place, la situation est consécutive à un affrontement opposant deux groupes armés locaux. Il s'agit notamment de la coalition des patriotes résistants congolais et de l'alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. Ces affrontements qui ont commencé le jeudi se sont poursuivis hier vendredi dans ces villages, affirment plusieurs sources locales. En cause, les deux groupes s'accusent mutuellement du meurtre jeudi d'un civil et d'un combattant à Bitonga. Les déplacés ont pris la direction de Calais au sud Kivu, d'après des sources sur place. Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, au Nord Kivu, l'eau potable n'est plus distribuée dans les sites des déplacés de Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo. En outre, dans ce site, il n'y a plus d'installation sanitaire appropriée. Le président des déplacés de la zone lance un SOS pour Théo Moussekoura. Plusieurs ONG auraient arrêté leurs interventions dans ces sites depuis quelques semaines. Du coup, des milliers de déplacés vivent difficilement. Ils craignent même déjà une augmentation des cas de choléra dans la zone. Théo Moussekoura, président des déplacés de Kanyaruchinya, explique la situation au micro de Bernardin Nyangi.
Nous avons un problème ici dans les cités de Kanyaruchinya. Dans tous les camps, les toilettes sont remplies et bouchées. Il n'y a même plus d'eau. Les quelques ONG qui s'occupaient des installations sanitaires et distribution d'eau se sont déjà retirées. Il y a quelques toilettes construites par le Fonarev, mais rien ne marche. Et donc, nous craignons l'augmentation des cas de choléra. Nous demandons de l'aide pour reconstruire les toilettes, que le gouvernement et les ONG interviennent urgemment. Même l'endroit qui nous avait été donné pour enterrer nos morts est saturé, et nous ne trouvons même plus de cercueils. Et donc, nous souffrons beaucoup ici.
Contacté, le coordonnateur provincial du service de protection civile promet de vérifier la situation. Joël Ndagana affirme qu'il y a tout de même le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit qui est intervenu dans ce site il y a quelques jours. À Kinshasa, plus de 100 jeunes de la commune de Mongafula ont pris part à une session de sensibilisation sur les conséquences de la mauvaise gestion des déchets ménagers sur la santé et l'environnement tenue du 4 au 5 janvier en cours. Ce programme est initié par Environ News en collaboration avec l'ONG Olof Palm International. Et c'est depuis l'an dernier, dans quelques quartiers de la capitale Kinshasa, il vise à former des jeunes sur l'assainissement du milieu et le recyclage des déchets ménagers dotés d'une valeur marchande, précise Ornella Aoussa, chef d'une start-up de fabrication de charbon écologique à base des déchets ménagers. Elle explique au micro de Tati Mapoukou.
Les questions environnementales touchent plus la jeunesse parce que nous avons la vie, nous avons une longue expérience et pour le prolonger, ça nous demande de garder notre environnement propre, de le garder très propre. Et cette initiative, en tout cas, pour moi, je trouve que si cela serait répandu dans toute la vie de Kinshasa, parce que c'est déjà répandu, mais si cela est répandu dans tout au niveau de la République, cela ferait que les jeunes soient engagés, que chacun prenne conscience, que chacun donne ce qu'il a pour que notre environnement change. Pour un Congo plus beau qu'avant, propre et durable, que chacun prenne conscience que pour que nous changions, moi je dois changer, l'autre doit changer, et ensemble, nous formerons une équipe forte qui changera des choses.
Actualité internationale. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel qui étudie les dossiers des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a rejeté celui d'Ousmane Sonko au motif qu'il était incomplet, a annoncé un des avocats de l'opposant hier vendredi 5 janvier. Accord maritime avec l'Éthiopie, le Somaliland sur la voie de la reconnaissance internationale en offrant à l'Éthiopie un accès maritime sur son territoire. La République autoproclamée de Somaliland espère obtenir la reconnaissance officielle de son existence par son influent voisin. Un pari incertain mais audacieux pour cette région autonome qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pour l'heure reconnue par aucun État.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le chef des opérations d'information de la force de la MONUSCO basée à Goma, le major Eric Dehé-Martin. Nous parle des opérations menées par les troupes onusiennes au cours des deux dernières semaines, opérations cadrant avec la protection des civils dans la province de l'Ituri, c'est entre autres dans le territoire de Djougou. Il revient aussi sur quelques défis en rapport avec ces opérations. Le major Eric Dehé-Martin s'entretient avec Bernard Nyangui.
Major Eric Dehé-Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le chef des opérations d'information de la force de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu des actions, opérations que mène la force de la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils, plus particulièrement en Ituri. Alors, nous allons commencer par la zone de Amé. Alors, vous pouvez nous parler un peu sur les actions qui ont été menées dans cette zone-là, dans le cadre de la protection des civils.
Le 1er janvier 2024, à minuit et quart, nous avons reçu des informations sur un pillage en cours perpétré par des milices présumées de Codeco à Ridza, à environ 37 km nord-est de Djougou. En réponse à ça, une patrouille du camp de Amy a été envoyée sur place et après des tirs de sommation, les assaillants ont cessé l'incursion.
Toujours dans cet espace-là de l'Ituri, à Ridza, comment la MONUSCO a-t-elle assuré la sécurité dans cette zone, surtout à Choubart?
Oui, après cet incident-là, la patrouille elle a continué à faire plusieurs rondes et elle a assuré la sécurité dans la région de Ridza et Choubart. Ceci a en fait permis à la population du village de retourner à leur maison.
Et aussi, on parle de la Codeco qui, dans la zone de Gora, la MONUSCO a essuyé des tirs de la Codeco. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était, on parle du 29 décembre.
Bien sûr, oui. Le 29 décembre 2023, à 15h15, une patrouille a été informée que des membres de l'église catholique se rendaient à Gora. Codeco a ouvert le feu en route et après un échange de tirs de 10 à 15 minutes, la situation a été maîtrisée. La MONUSCO a ensuite assuré la protection du retour des habitants à Gora, de Gora à Drodon.
Oui. Et après ça, qu'est-ce que la MONUSCO a fait après cette attaque?
Après l'attaque initiale, en fait, ils ont continué les patrouilles vers Gora pour localiser les assaillants. Pour démontrer notre engagement, nous avons aussi dissuadé plusieurs incursions. En fait, la patrouille est tombée sur le tir une deuxième fois de Codeco et a eu une deuxième échange de 12 minutes. Et la patrouille a réussi à les repousser. La patrouille a par la suite collaboré avec les FRDC pour assurer la sécurité continue de cette journée-là.
Alors, la CODECO est toujours accusée de mener parfois des attaques contre les civils, et en particulier dans le village de Blukwambi, le 25 décembre, on parle aussi d'une autre incursion. Il y a des présumés CODECO. Qu'en est-il?
Oui, le 25 décembre, la MONUSCO, après avoir été informée de la présence de CODECO à Blukwambi, nous avons envoyé une patrouille vers 14h30. Bien qu'il y ait eu quelques tirs pour perturber les célébrations dans l'église, il n'y a eu aucun blessé. Ça, c'est des tirs de CODECO. Mais la MONUSCO, quand elle est arrivée, elle a pris la présence et assuré que les célébrations se déroulent bien. Elle est restée présente jusqu'à la fin des célébrations pour pas que les CODECO reviennent.
Major Eric Dehé, Martin. Merci.
Merci beaucoup.
Le chef des opérations d'information de la force de la MONUSCO basée à Goma répondait aux questions de Bernardin Nyangui. Par ici prend fin ce journal coordonné par Noëlla Luzitu-Kabambi, Jean-Claude Nsiala à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.